Merci Tiffaine et bon week-end. Trois invités et Gertrude Stein. Au programme aujourd'hui, lire, traduire, éditer, celle qui voulait être un personnage historique et changer la littérature anglaise pour les 100 prochaines années, ce qu'elle fit.
La Compagnie des Poètes. Par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h.
Sherwood Anderson, idem the same. I knew too that threw them. I knew too that he was through. I knew too that he threw them. I knew too that they were through. I knew them. I knew to them. If they tear a hunter through, if they tear through a hunter, if they tear through a hunt and a hunter, if they tear through the different sizes of the six. The different sizes of the six, which are these. A woman with a white package under one arm and a black package under the other arm, and dressed in brown with a white blouse. The second, St. Joseph. The third, a hunter in a blue coat and black garters and a plaid cap. A fourth, a knife grinder, who is full-faced, and a very little woman with black hair and a yellow hat, and an excellently smiling, appropriate soldier. All these as you please. In the meantime, examples of the same lily. In this way, please, have you run. What do I see? A very little snail, a medium-sized turkey, a small band of sheep, a fair orange tree. All nice wives are like that. Listen to them from here. Oh, you did not have an answer? Here? Yes. A very valentine. Very fine is my valentine, very fine and very mine. Very mine is my valentine, very mine and very fine. Very fine is my valentine and mine. Very fine, very mine, and mine is my valentine. We were able to notice that each one in a way carried a bundle. They were not trouble to them, nor were they all bundles.
A rose is a rose is a rose. Une devise steinienne et autant de procès en illisibilité et en tyrannie qui viennent trop souvent masquer une écriture, disons, illimité, une œuvre aussi tentaculaire que décisive, soit une soixantaine de textes, romans, nouvelles, poèmes, pièces de théâtre, conférences et même livrets d'opéra, écrits entre à peu près 1906, alors que Gertrude Stein vient de rejoindre définitivement Paris et sa mort en 1946. À Neuilly, une pluie de publications entrées dans le domaine public oblige, remet l'écrivaine américaine en lumière, réédition, réévaluation avec préface, postface, retraduction, parution inédite, parmi lesquelles Mrs. Reynolds, roman ultime qui paraît pour la première fois en français, aux éditions Cambourakis, édité par vos soins, Laurence Bourgeon. Tendre bouton, recueil de poèmes dont vous avez traduit l'intégralité pour les éditions Nous, Jacques Demarque. Et enfin, Narration, hein, qui est un rassemblement de 4 conférences données à Chicago dans les années 30, que vous traduisez, Chloé Thomas. Et puis, La Terre est ronde et Paris-France aux éditions Rivage, que vous préfacez toujours, Chloé Thomas. On vient d'entendre sa voix, la voix de Gertrude Stein, hein, cette voix si particulière, cette diction toute particulière, une diction qui insiste, hein, comme insiste son écriture avec ses répétitions ou ses bégaiements, c'est selon, hein, une diction étrangement actuelle, en tout cas assez loin de la diction en vigueur dans les années où elle prononce, où elle dit ses textes. Est-ce que écouter Gertrude Stein, c'est au moins aussi éclairant que de la lire, Chloé Thomas? Est-ce que c'est d'abord une langue qui s'écoute?
Alors je crois que Stein elle-même insistait sur le fait que la littérature, ça se lisait et ça ne s'écoutait pas. En revanche, quand on aime Gertrude Stein, c'est effectivement très très touchant de l'entendre et très, je n'ose pas dire éclairant parce que
c'est toujours
un peu présomptueux de se sentir éclairé à propos de Stein, mais très émouvant en tout cas. Et à chaque fois que j'entends ces enregistrements, je suis frappée à la fois par l'euphonie qui est constante dans ces textes. Même quand elle est accusée de malmener la syntaxe ou la grammaire, elle ne fait jamais des phrases qui sont laides. Et il y a aussi, comme vous le soulignez, quelque chose de très moderne, en fait, dans sa façon de parler, et une diction qui est très différente d'une lecture théâtralisée, finalement, avec une absence totale d'emphase. C'est-à-dire une insistance qui passe dans le simple fait de répéter, de redire, mais qui ne se repose pas du tout sur une accentuation forcée. Donc quelque chose qui émane vraiment très simplement.
C'est une façon d'ailleurs qu'on va entendre bien des années plus tard. Quand vous dites éclairante, même prudemment, même sur la pointe des pieds, qu'est-ce que ça veut dire, Chloé Thomas ?
Je crois que ça rappelle en fait le fait de l'entendre parler, dire ses textes aussi simplement. Ça rappelle à une forme de simplicité. Et on a tendance à l'oublier aujourd'hui, parce qu'elle a cette réputation d'illisibilité, etc. Mais paradoxalement, les premiers lecteurs de Stein, par exemple, c'était pas du tout des universitaires qui se font une spécialité de faire l'herméneutique de textes illisibles. Et il y a une forme d'immédiateté. On le voit particulièrement dans les livres pour enfants, je trouve. Mais c'est vrai d'entendre Bouton aussi. Il y a une forme de simplicité et d'immédiateté qui est très frappante.
En ce temps-là, le monde était rond. Et on pouvait tourner tout autour en rond et en rond. De toutes parts, il y avait quelque part. Et de toutes parts, il y avait des hommes, des femmes, des enfants, des chiens, des vaches, des sangliers, des petits lapins, des chats, des lézards et des animaux. C'est ainsi que c'était. Et chacun, chien, chat, mouton, lapin et lézard et enfant, tous voulaient tout raconter à chacun et ils voulaient tout raconter d'eux-mêmes. Et puis, il y avait Rose. Rose était son nom. Et aurait-elle été Rose si son nom n'avait pas été Rose? Elle avait l'habitude de penser, et puis de penser encore. Aurait-elle été Rose si son nom n'avait pas été Rose? Et aurait-elle été Rose si elle avait été une jumelle? Rose était son nom tout de même. Et le nom de son père était Bob. Et le nom de sa mère était Kate. Et le nom de son oncle était William. Et le nom de sa tante était Gloria. Et le nom de sa grand-mère était Lucie. Ils avaient tous des noms. Et son nom à elle était Rose. Mais aurait-elle été... Elle en pleurait souvent. Aurait-elle été Rose si son nom n'avait pas été Rose? Je te le dis, en ce temps-là, le monde était tout rond. Et on pouvait tourner tout autour.
Non plus la voix de Gertrude Stein, celle-ci d'ailleurs a beaucoup plus de variations d'intonation, mais celle de Sabine Zovigian pour une adaptation de La Terre est ronde sur une musique de Michael Elliott, c'était pour Arte Radio en 2015. Donc ce court texte destiné aux enfants publié en 1939 et dont vous préfacez la traduction de Marc Dachy, Chloé Thomas. Peut-être juste une petite question chronologique, même si elle avait tout à fait horreur de ça. Qui est Gertrude Stein en France et aux États-Unis en 1939?
Il y a un tournant en fait au début des années 30 quand elle sort l'autobiographie d'Alistoclas qui devient un succès commercial relatif aux États-Unis et qui fait que elle finit par acquérir une célébrité relative dans sa terre natale, alors que jusque-là, elle était connue surtout à Paris pour le personnage mondain qu'elle représentait, l'amie de Hemingway, Fitzgerald, la collectionneuse d'art, l'amie de Picasso, etc. Donc la publication de cette première autobiographie change tout, et c'est aussi ça qui va faire que on va lui passer des commandes, ce qui n'était pas le cas avant, dont la commande d'un livre pour enfants, ce qui peut paraître surprenant puisqu'elle ne s'était pas du tout essayée au genre à ce moment-là. Donc c'est un éditeur américain qui avait l'ambition, qui venait de monter une maison d'édition. Il voulait faire écrire des écrivains célèbres pour des enfants et en faire des livres illustrés. Et donc c'est à cette occasion qu'elle fait La Terre est ronde en reprenant beaucoup de thèmes qu'il a travaillé depuis longtemps. On retrouve aussi ce motif qui date du tout début de sa carrière, en fait, « Rose est une rose est une rose ». Je crois que la première occurrence, c'est 1913, et qu'elle reprend dans ce texte tardif comme si c'était déjà un aphorisme, une espèce de petite phrase stanienne qu'elle remet en scène, en fait, en tant que petite phrase.
Alors, on va revenir évidemment sur cette affaire de Rose, sur cette affaire de nom, qui traverse vraiment toute son œuvre. Alors, ce texte de commande hésite un petit peu entre le conte, la comptine. C'est un texte aussi de chiffres, de formes, de couleurs, de noms surtout, qui emmène dans son récit donc Rose, qui est une petite fille, son cousin Willy, un lion, j'allais dire un loup, mais c'est tout comme, j'imagine que c'est à peu près le... c'est à peu près la même chose, que Stein se prête à cet exercice-là, tardivement certes, mais néanmoins, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Parce que, évidemment, vous l'avez dit, on l'a tellement suspecté d'illisibilité, et vous, dans votre préface, vous dites que cette expérience était d'une pertinence extrême et urgente.
Je crois que ça rappelle tout simplement, encore une fois, la simplicité de sa langue, et... le fait que, à mon avis, les enfants sont plus...
Une simplicité compliquée, pour la paraphraser.
Si on veut. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas linéaire, qui sort un petit peu des normes, mais qui finalement fait que les enfants qui n'ont pas encore intégré toutes les règles de grammaire sont peut-être plus qualifiés que les universitaires pour la comprendre ou au moins l'accepter et être ouvert à ce qu'elle raconte. Et je crois aussi que ce livre a été l'occasion pour elle de remettre en scène justement des phrases qui avaient l'air un petit peu d'idiosyncrasie et de les replacer dans cette logique du conte, une logique onirique, symbolique, psychanalytique si on veut, mais qui est une logique finalement qui parcourt l'ensemble de la littérature, qui la réinscrit dans une histoire très longue, qui parcourt, qui va du mythe à l'épopée, au conte, etc.
Alors, je ne vais pas dévoiler, quand la narration est assez friable, d'une certaine façon, donc je ne vais pas tout dévoiler, il faut le lire, il faut vraiment le lire. Le texte est découpé en brefs chapitres et donc met en jeu ces deux enfants, Rose qui passe du pleur au chant et inversement, et puis Willy qui passe du chant à l'excitation et inversement. Et puis, qui pose surtout, il y a encore la question du nom, donc celui de Willy, le petit garçon, et puis surtout celui de Rose, la petite fille, qui, dont toute la quête dans ce conte sera justement la découverte de son nom propre et qui gravera en rond, bien sûr, sur l'écorce d'un arbre, cette fameuse phrase ou devise ou sentence ou aphorisme, je ne sais pas comment il faut l'appeler, « Rose est une rose ». Est une rose, alors rose, le premier rose étant un rose non propre. Donc cette devise qui va finir par vraiment cavaler partout dans leur quotidien, à Gertrude Stein et à Listoclas, jusqu'à être brodée sur leur linge. Au-delà de cette devise signature, quelle tension le nom mettrait en jeu ici, précisément dans ce texte-là, Chloé Thomas?
Ça fait très longtemps que Gertrude Stein est obsédée par ce nom-là précisément. Non pas n'importe quel nom, mais Rose.
Pour quelle raison?
Alors, il y a un sous-texte shakespearien qui est assez évident. Enfin, on le voit d'ailleurs dans d'autres textes où elle le reprend. C'est dans Roméo et Juliette, quand Juliette est à son balcon. Et il y a cette question de savoir si Roméo ne s'appelait pas Montaigu. Est-ce qu'il pourrait s'aimer? Et donc, Juliette a cette phrase... what's in a name? A rose by any other name would smell as sweet. Je ne sais pas quelle est la traduction canonique aujourd'hui, mais qu'y a-t-il dans un nom? Une rose, par n'importe quel autre nom, aurait une odeur tout aussi suave. Donc c'est chez Shakespeare, enfin dans la bouche de Juliette en tout cas, le rejet du fait que le nom lui-même ait un sens, donc une espèce d'anticratilisme naïf. Et à partir d'un certain moment dans sa carrière, Gertrude Stein va complètement à l'encontre de ça. Autant à ses débuts, les noms sont un petit peu indifférents pour elle, ce qui fait qu'elle peut utiliser des pseudonymes quand elle fait des portraits, notamment elle va changer, elle va faire un portrait d'Isadora Duncan et va l'appeler Horta. Et puis à un moment, le nom devient vraiment très signifiant et très déterminant. C'est quelque chose qu'on voit en particulier dans un texte qui n'est pas traduit, qui s'appelle « Quatre en Amérique », où la question qu'elle se pose, c'est, donc elle fait en apparence la biographie de quatre grandes figures américaines. Il y a Henry James, il y a George Washington, Wilbur Wright, qui était ce pionnier de l'aviation, et puis Ulysses Grant. Et la question qu'elle pose, c'est qu'aurait été Ulysses Grant s'il s'était appelé autrement? Et donc, il s'agit de dévider une histoire fictive, une biographie fictive, en considérant que le nom détermine le caractère et la carrière. Et donc, on est complètement à... Il y a un retournement total par rapport à cette phrase de Juliette à son balcon.
Qu'est-ce qui ferait alors, si on vous suit, et puis si on suit Blanchot, que vous citez dans votre préface, qu'est-ce qui fait que ce vers-là, alors en particulier, troublerait tant ce vers, cette phrase, cet aphorisme?
C'est un jeu sur la prédication et sur l'identité. Rose est une rose, c'est une tautologie. C'est clos, mais rose est une rose, est une rose. C'est une ouverture vers l'infini. On entre dans le bavardage, comme dit Blanchot. Et c'est dans la façon dont elle le met en scène, comme vous le disiez, sur son linge de maison, c'est la circularité. On le voit d'ailleurs dans le livre aussi, La Terre est ronde, la petite rose va le graver en rond sur un arbre. Donc c'est une sortie complète de ce qui paraît un acte très simple de langage, qui est la prédication. Rose est quelque chose. Rose est une rose est une rose. On est dans un autre usage de la langue.
Ça veut dire que le prédicat n'a pas beaucoup d'importance, finalement. Quand on répète ce prédicat, il se perd comme un écho dans l'écoute, dans la langue, et il perd de son importance. Rose, la première, c'est la petite fille, la deuxième, c'est la fleur, la troisième, ce n'est que la répétition dont on ne sait pas d'ailleurs lequel, parce que c'est rose est une rose est une rose. La deuxième copule se rapporte, on ne sait plus à quelle des deux versions de ce monde. Donc ça se perd quelque part. Il y a Jonathan Williams, qui était un éditeur américain qui est mort dans les années 2000, avait fait des petits textes comiques. Et il y en a un, c'est le matin à 27 rue de Fleurus, Gertrude Stein, a rose at nine, and a rose, and a rose, and a rose. Voilà, donc je n'avais pas traduit ce texte parce que ce n'est pas traduisible. Gertrude Stein se lève à 9h et se lève, et se lève, et se lève. Bon. Et c'est pareil, cette espèce de perte quelque part de l'importance du référent. On ne sait plus quel est le sujet du prédicat. Donc, et je pense que ça, c'est assez essentiel dans l'écriture de Stein.
Alors, si c'est Jacques Demarque, la perte du référent, comme vous dites, hein, pour autant, ça dit aussi quelque chose de son rapport aux mots, hein, aux mots presque comme un objet, j'allais dire. Elle qui disait qu'être poète, c'est abuser du mot. Qu'est-ce que cette insistance ou cette répétition ou cet écho ou cette perte pourrait dire justement de son rapport au mot, précisément?
Non, du rapport au réel, en fait. Le problème, ce n'est pas le rapport au langage, c'est le rapport du langage au réel. Et le réel est par définition inarticulé, variable, instable, changeant. Ce qu'on distingue par des noms n'est qu'une projection du langage sur le réel, et elle met le langage en confrontation réelle, notamment dans Tender Buttons. Là, il est vraiment en confrontation. Ce qui est très caractéristique de Tender Buttons, c'est l'usage qu'elle fait de la syntaxe. L'anglais est assez volontiers parataxique, au sens où il peut supprimer des pronoms relatifs, des conjonctions. Et là, elle est hyper syntaxique. Les mots de liaison, en traduisant, j'en ai même, je crois, un peu supprimé, parce que le français a aussi cette tendance, genre le français moderne en tout cas. On a l'impression qu'elle écrit un anglais qui correspondrait au français du XVIIe siècle, où toutes ces articulations, le langage est articulé ou le réel n'est pas articulé. Et toutes ces articulations sont mises en valeur. Et donc, le sujet initial, le propos initial de la phrase se perd progressivement à chaque fois qu'elle met une articulation. C'est-à-dire que la conjonction de subordination, qui donc vraiment est une hiérarchie, ou de coordination, eh bien elle ne coordonne ou elle ne subordonne rien. Et donc elle subordonne autre chose que le premier sujet. Donc, et c'est pareil avec la prédication, la copule « et »,« is ». Donc on a ce langage qui dérape constamment, qui devient instable, dont le sujet devient instable, comme est le réel.
On va en reparler tout de suite, Jacques de Marc, cette langue dont vous parliez, parce que vous faisiez une petite référence au français du XVIIe siècle, et je pensais à cet anglais particulier, à ce rapport à son anglais, à son américain particulier, hein, celui de Gertrude Stein. Il y a l'anglais et puis il y a l'anglais de Stein, c'est ce que vous écrivez, Chloé Thomas. Est-ce que cet anglais-là avait besoin, au fond, du français pour se construire? Autrement dit, est-ce qu'il lui fallait entendre une autre langue pour pouvoir trouver la sienne?
Non, ce n'est pas sûr que l'influence du français soit très forte dans sa langue.
Du français ou d'une autre langue,
oui,
c'est-à-dire
oui.
Le fait d'entendre une autre langue que la sienne.
Ce qui est sûr, c'est qu'elle est coupée de l'oralité américaine. Elle est assez isolée. Et donc sa langue est une langue, il y a une sorte d'autisme. Je crois que Chloé Thomas écrit dans sa thèse qu'elle ne se préoccupe pas beaucoup de son lecteur ou de son auditeur. Il y a une sorte, elle vit comme ça de manière un peu enfermée avec Alice. Son frère Léo est parti parce qu'ils ne sont pas d'accord d'un point de vue artistique et aussi parce qu'il n'aime pas cette relation homosexuelle affichée. Mais bon, peu importe. Donc elle est assez seule, elle voit des collectionneurs, des artistes qui, au fond, ne sont pas des écrivains et ne lui parle pas de littérature. Donc, elle a beaucoup lu avant. Il est sûr qu'elle a lu Flaubert.
Bon.
Les trois vies sont clairement
écrites sous Flaubert ou sur Flaubert.
Qu'elle a lu Flaubert, qui est un écrivain réaliste quand même. Bon, donc c'est pour ça que je dis que le réel. Alors, le réel n'est pas la réalité. La réalité, c'est le réel tel qu'on le reconstruit. La réalité, c'est ce que racontent les informations à la radio. Le réel, c'est les objets. Alors, elle prend dans Tender Buttons, elle prend des objets simples, des objets du quotidien ou des situations assez simples, le repas, les chambres à la fin. Donc, mais c'est des situations simples. C'est un réel simple. C'est voilà une bouteille, un gobelet. Cet objet, comment le décrire? Si on le décrit avec de la syntaxe, on va l'organiser. Et elle ne l'organise pas. La syntaxe articule les différentes parties de l'objet, sa couleur et tout ça. Non, là, les couleurs, on est dans le domaine de la sensation. Et en fait, la phrase dérape sans arrêt. Et c'est assez drôle, quelque part. Et la syntaxe est entraînante et en même temps un peu étonnante. C'est-à-dire qu'on est entraîné vers un étonnement. C'est ça qui est la réussite de Tender Buttons. C'est que la syntaxe fait que, quand on voit un pronom relatif, on attend une suite, on attend un détail de ce qui précède, ou quelque chose en relation avec ce qui précède. Et là, on ne l'a pas, ou pas vraiment. Et
on l'a parfois avec retard.
Oui, on l'a avec retard, ça revient. Et donc, on est dans des cycles, mais cette langue, finalement, il faut se laisser emporter par sa phrase. Il faut jouer le jeu. Quelquefois, il y a des choses qui se perdent ou la phrase s'arrête comme ça. Les phrases sont inachevées. Joyce fait ça à la même époque.
Qu'elle n'aimait pas du tout.
Non, mais c'est le contraire. Joyce, c'est tout à fait le contraire d'elle. Visiblement, elle n'a jamais lu Joyce. Elle n'a pas lu les poètes américains de son époque, notamment quelqu'un qui était un peu connu, William Carlos Williams. Cummings, qui était connu aussi, qu'elle n'a pas lu. Elle ne s'intéresse pas à ça. Elle est un écrivain sur elle-même. Et c'est bien ce que raconte Hemingway aussi. On ne peut lui parler que d'elle. Elle vit sur elle-même.
If I told him a completed portrait of Picasso, if I told him, would he like it? Would he like it if I told him? Would he like it? Would he like it? If Napoleon, if I told him, if I told him if Napoleon... Would he like it if I told him, if I told him, if Napoleon? Would he like it if Napoleon, if I told him? If I told him, if Napoleon, if Napoleon, if I told him? If I told him, would he like it? Would he like it if I told him? Now, not now, and now. Now, exactly as kings. Feeling full for it. Exactitude as kings. So to beseech you as full as for it. exactly or as kings. Shutters shut and open, so do queens. Shutters shut and shutters, and so shutters shut and shutters, and so shutters, and so shutters shut, and so shutters shut, and shutters, and so shutters shut, and so, and also, and also, and so, and so, and also. Exact resemblance to exact resemblance, the exact resemblance, as exact as a resemblance. Exactly as resembling, exactly in resemblance, exactly a resemblance, exactly and resemblance. For this is so, because. Now actively repeat it all, now actively repeat it all, now actively repeat it all. Have, hold, and hear actively repeat it all. I judge, as a resemblance to him. Who comes first? Napoleon the first. Who comes to? Coming to. Who goes there? As they go, they share. Who shares all? All is as all, as yet or as yet. Now to date, now and date and the date. Who came first? Napoleon at first. Who came first? Napoleon the first. Who came first? Napoleon first. Presently. Exactly do they do. First exactly. Exactly do they do too. First exactly. And first exactly. Exactly do they do. And first exactly and exactly. And do they do. At first exactly and do they do. The first exactly. And do they do the first exactly, at first exactly, first as exactly, at first as exactly.
Alors, une pluie d'articulations et de répétitions. C'est un extrait du second portrait que Gertrude Stein écrira ou fera de Picasso. Donc celui-là date de 23, hein, 17 ans après que Picasso a réalisé le sien, hein, le très fameux portrait de Gertrude Stein. Alors on va parler bien sûr, Jacques de Marc du Vertige à traduire Stein, mais est-ce que l'écouter, c'est vous qui avez demandé à ce qu'on entende, on n'a pas tant d'archives sonores hein, de Gertrude Stein, mais il y en a quand même quelques-unes qui avaient demandé à entendre celle-là, est-ce que l'écouter vous a donné des indications ou est-ce que l'écouter vous a aidé à traduire?
Non, pas vraiment, non, ça peut pas aider à traduire, on traduit un texte, pas une voix, et...
Ça dépend.
Oui, non mais là il faut... Bon, la traduction de Tenderbottom, c'était un peu difficile pour moi parce que le c'est pas très simple à cause de cette question de quand il n'y a pas de référence, c'est difficile à traduire parce que les mots sont souvent polysémiques en anglais comme en français, c'est des langues très très similaires et les syntaxes, bon, c'est traduire de l'anglais, c'est essentiellement une question de vocabulaire, mais le vocabulaire a un référent. Et là, on ne sait pas très bien quel est le référent. Donc, c'était ça la difficulté. Normalement, la vraie terreur du traducteur, c'est le non-sens. Or là, il n'y a pas de problème. On est très souvent dans le non-sens. Et là, on y est quasi constamment. Mais il faut rester au texte. Il faut être le plus fidèle à ce texte. Et le plus fidèle aussi à ses rythmes, à ses jeux sonores de phonie, d'allitération, de rimes, de rimes internes. De jeux sonores, donc il faut entendre aussi l'anglais, mais c'est un rapport lointain avec sa façon de lire extrêmement rapide, qui est beaucoup plus, qui est une façon de lire des années 70-80.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farid.
Peut-être un mot justement sur ce tendre bouton, hein, donc réédité aux éditions Nous, qui fonctionne un peu comme une sorte de cabinet de curiosité, en trois grandes parties, hein, donc objet, nourriture, chambre, et puis une foultitude de sous-parties, sans enchaînement logique apparent, hein, une sorte de coq à l'âne, comme ça, qui semble vouloir saisir des objets du quotidien, tout en se gardant bien de les représenter. Alors ça commence comme suit. Une carafe, c'est un verre aveugle. Une sorte en verre et sa cousine, un spectacle et rien, d'étrange la simple couleur d'un coup et un dispositif, dans un système de visée, tout ça est rien d'ordinaire, rien d'inordonné, dans le non-ressemblant, la différence se répand. Donc on en revient aussi à ce qu'on vient d'entendre quant au portrait de Picasso.
Ce passage a été beaucoup commenté, à mon avis surcommenté. On a prétendu qu'il y avait une influence, que c'était l'influence du cubisme. Elle n'était pas très admirative du cubisme de Picasso et de Braque, déjà. Et je pense que l'influence du cubisme, elle est sur Apollinaire dans l'Indire et Christine, c'est les collages, c'est la pluralité de vision qu'on a voulu voir dans ce texte, je pense, est un peu exagérée. De même que, parce qu'il y a aussi les interprétations de féminisme homosexuel, et où on a voulu voir des allusions sexuelles, érotiques.
Ne serait-ce que dans le titre.
Oui.
Alors pour en revenir à nos boutons, à nos tendres boutons, voici ce qu'en écrit Isabelle Alfandari donc dans la postface. L'écriture de tendres boutons a de quoi déconcerter, voire donner le vertige à son lecteur, exposé à la langue en devenir dans une grammaire qui a perdu le sens commun, lui inspirant tour à tour dégoût ou ennui. Texte de jouissance et non pas de plaisir au sens où l'entend Roland Barthes, la poésie de Stein arrête la lecture. Et un peu plus loin, l'écriture de Stein transgresse les règles élémentaires de la logique et de la syntaxe. En faisant coexister des termes sans rapport entre eux, elle agresse son lecteur en lui jetant à la figure des phrases dont il est impossible de savoir d'où elles ont été émises. Énoncé si péremptoire qu'il frise parfois l'incantation, le poème ne procure en apparence ni plaisir au sens, ni repos à l'esprit, car il ne tombe pas juste.
Oui, non, Isabelle a totalement raison. Il y a une sorte de déception, mais il y a une sorte d'entraînement. Je ne sais pas ce qu'un poème qui tombe juste, c'est un poème qui a une bonne chute. C'est-à-dire, c'est un poème qui a un formalisme assez... Un sonnet devrait tomber... On peut dire qu'un sonnet tombe juste ou ne tombe pas juste, ou se casse la figure au milieu, et où il finit par ronronner. Il y a des tas de manières de ne pas tomber juste pour un poème. Gertrude Stein, je pense que le problème ne se pose pas. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est catalogué poésie. Moi, j'ai un peu des doutes et je suis assez d'accord encore avec ce que fait remarquer Chloé Thomas au fil de sa thèse, qu'on a mis dans la poésie tout ce qu'on ne peut pas faire rentrer ailleurs. Le poème est toujours supposé avoir un auteur. Bon, il y a des... Si on prend Reznikov, par exemple, lui, il y a une espèce d'objectivisme qui fait que l'auteur... Mais l'auteur réapparaît assez vite chez Reznikov. Là, l'auteur, il est furtif, il passe comme ça. En tout cas, dans Tender Buttons, c'est comme ça. Il passe, de temps en temps, on se dit, ah, c'est ça, ça, c'est un souvenir dans chambre, parce qu'en traduisant, il faut bien s'imaginer quelque chose. Alors, je me disais, ah, ça, c'est des histoires d'internat à l'université, la découverte de son homosexualité, les jeux dans les couloirs, etc. Il y a beaucoup d'histoires de couloirs, de chambres, on passe d'une pièce à l'autre. Les internats américains sont pas des grands dortoirs, en tout cas, ce que j'en sais, sont pas des grands dortoirs, c'était plutôt des petites chambrées à trois ou quatre. Donc on imagine ça, mais c'est le lecteur qui imagine. Parce que je pense que l'une des caractéristiques de Stein, au moins à cette période, pas ensuite, pas quand elle fait le monde est rond ou la terre est ronde, il y a très peu d'imagination au sens où il n'y a pas de fable. Sur ces objets, elle ne fabule pas. Il y a une écriture qui est déclenchée par l'objet sans doute, le mot qu'elle a mis, c'est un déclencheur. Ensuite, elle écrit, l'objet se perd, et surtout la phrase se perd, enfin le sujet de la phrase se perd.
Est-ce que vous pourriez nous en lire
quelques...
un petit extrait?
Oui.
Jacques Demarque, merci.
Alors, on va lire un extrait assez facile. Enfin, je vais lire un extrait assez facile où on voit d'ailleurs une mécanique, un centre de table ou un centre sur une table. Il était un chemin un jour. Cela faisait une somme. Supposez qu'un foie de morue est une huile. Supposez qu'une huile de foie de morue est mélodieuse. Supposez qu'on presse une huile de foie de morue mélodieuse et qu'une huile de foie de morue mélodieuse pressée est de la porcelaine et un secret avec un octroyé roseau. Un roseau à venir, dans un roseau à venir. Près de moi, près d'un dossier, un serveur. Près d'un serveur dossiérique, et à propos de la lettre qu'elle lit. Elle lit avec elle, pour moi. Bon, donc il y a une espèce d'enclenchement comme ça, de phrases avec des compléments de noms, comme je vous avais invité récemment Michel Métaille, voilà, qui un peu à la Michel Métaille.
Et après, des emboîtements.
Après, ça se perd, La phrase s'interrompt et le roseau arrive. Et on a un roseau à venir dans un roseau à venir. On a déjà la fameuse rose qui revient aussi.
Alors, qu'est-ce que le traducteur peut faire justement de cette perplexité? Je me dis, peut-être quand on est face à un tel texte, est-ce qu'il n'y a pas la tentation pour le traducteur peut-être de rajouter une clé, ça ou là,
le traducteur traduit le texte le plus près possible.
J'imagine bien, mais parfois il fait ce qu'il peut, le traducteur, et face à un texte comme celui-là.
Eh bien, en fait, le traducteur traduit plus, je ne sais plus qui j'entendais dire ça, le traducteur traduit des effets plus que des mots ou des phrases. Et on essaie de traduire les effets de langue qui sont produits là, notamment le dérapage syntaxique, doit vraiment être respecté. C'est ce que fait le traducteur. Il doit pas se poser de questions de savoir. J'ai toujours pensé que le traducteur devait être distant par rapport à l'auteur. Il n'est pas le représentant de l'auteur. Il n'est pas sa voix française, en aucun cas. Il est quelqu'un qui regarde un texte. Il traduit un texte plus qu'un auteur et il en traduit les effets. Tout ce qui est... Moi, j'aime les textes bizarres. C'est pour ça que j'ai traduit ce texte. Il est vraiment hyper bizarre. Ça impose une autre langue. Je pense que ça m'a aidé à assouplir ma syntaxe en tant qu'écrivain. Et à assouplir la syntaxe, je pense que j'ai traduit une première fois ce livre il y a maintenant 10 ou 12 ans, je ne sais plus. Oui, plus que ça. Peut-être
2005,
non, je crois. 2005, donc ça fait 13 ans. Et je crois que depuis 13 ans, ma syntaxe personnelle en prose s'est beaucoup assouplie. Je me suis permis beaucoup plus de dérapages. Je ne parle pas en vers, alors là, les dérapages ont toujours été inconstants. Mais là, maintenant, je suis beaucoup plus souple. Elle m'a aidé à assouplir ma langue. Et je ne fais pas du Gerstenstein, hein, loin de moi. Et je pense que qu'il ne faut jamais imiter les auteurs qu'on traduit. Là, c'est une autre façon de s'identifier à l'auteur, qui est une erreur totale. La seule loi que j'essaie de respecter, énoncée par Ezra Pound, formidable traducteur, champion de la belle infidèle, mais il y a une loi qui est très juste, c'est la traduction d'un poème doit être un poème.
Si le traducteur doit avant tout conserver ou transmettre des effets, quels auront été ceux qui vous ont sérieusement résisté d'entendre Bouton, Jacques de Marc? Si, il y a eu des points de résistance.
Oui, oui, il y a forcément des points de résistance. Je vous dis, le nombre de dates, de this, de which, de mots de liaison, de is, bon, le... Quand on est, j'ai commencé journaliste, et quand on est jeune journaliste, le rédacteur en chef, le responsable du journal, vous dit, n'emploie pas le verbe être. Et emploie un autre verbe. Et parce que c'est assez facile. Ce qui m'a résisté, c'est le côté très, très français de cette syntaxe de Gertrude Stein dans Tendre Bouton. C'est pas vrai après quand elle est dans des phrases ininterrompues, dans des répétitions et tout ça. Là, ce n'est pas vrai du tout. Mais là, il y a un côté syntaxique. C'est la syntaxe qui m'a résisté. Le vocabulaire, au fond, il est rarement difficile. Il est rarement un vocabulaire rare. J'ai pas pété. Il faut rester le plus près de cette syntaxe. C'était ça le problème. Et c'était, alors que ma tendance d'écrire en français moderne, et que Mills, par exemple, que j'ai beaucoup traduit, lui vire beaucoup de mots de liaison. Donc il est très chinois, pour employer un terme qu'il a une langue très, pas parataxique, mais très 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 fluide. Enfin, surtout en prose, il est extrêmement fluide. Dans ses poèmes, il y a une certaine fluidité aussi. Il y a une espèce de machine qui se met en marche, et machine formelle. Et une fois que la machine tourne. Donc là, on sait ce qu'il faut traduire. On sait avec Camille ce qu'il faut traduire. Il faut traduire le jeu sur les lettres, il faut traduire la machine formelle. Là, la machine formelle, elle est molle. C'est une montre molle de Dali, quoi. C'est une machine molle. Et c'est un peu... Il faut garder cette mollesse aussi. Il faut la garder. Parce que c'est l'essence de cette écriture. Une espèce de liaison qui existent, mais qui sont pas articulées, parce qu'on articule deux choses. On articule deux choses qui vont ensemble. Le dossier avec l'assiette de la chaise. Bon, Là, ce qui est articulé ne va pas ensemble. Et donc, là, on se demande comment l'engrenage peut tourner pour continuer cette image.
Saints, l'opéra de Virgil Thomson, composé en 1927 sur un livret de Gertrude Stein, pour nous amener tout doucement une décennie au moins plus tard avec vous, Laurence Bourgeon, éditrice aux éditions Cambourakis, qui publie un roman inédit de Gertrude Stein, Mrs. Reynolds. Alors, c'est une publication qui vient après déjà plusieurs publications de textes, réédition de textes de Gertrude Stein aux éditions Cambourakis, qui sont nés il y a une bonne dizaine d'années maintenant, je crois en 2006, hein, sous l'impulsion de Frédéric Cambourakis, et qui dessine un catalogue, qui obéit presque à la logique d'éparpillement et de dissémination la littérature de Stein. Donc il y a d'abord de la bande dessinée, hein, dans un premier temps, de la littérature jeunesse, une collection féministe, ça c'est arrivé bien plus tard, des sciences humaines aussi, mais on va y trouver Jacques Jouet, Céline Minard, de la littérature étrangère, beaucoup, hein, Pessoa, Capek, Gertrude Stein. Alors j'imagine qu'il est difficile de parler de bon voisinage à la lecture de ce catalogue, mais pour autant, qu'est-ce que la présence de Gertrude Stein vient en dire, hein, de ce catalogue ? Présence insistante, parce que ça n'est pas fini, si j'ai bien compris.
Alors, en effet, le catalogue des éditions Cambourakis s'est structuré autour de la bande dessinée et de la littérature étrangère d'emblée, avec une volonté assez immédiatement présente de découvrir de nouvelles voies. Donc à la fois une idée de découverte d'auteurs inédits en français et une attention particulière à des écritures qu'on pourrait qualifier de plus patrimoniales. Et c'est dans cette logique que vient s'inscrire le projet d'édition et de réédition de Gertrude Stein. En l'occurrence, c'est vraiment lié à Martin Richer.
Le traducteur,
qui lui est un universitaire, enfin qui a fait un travail universitaire sur Gertrude Stein, qui est un grand spécialiste de la poésie américaine du XXe siècle, et pour qui c'est la figure tutélaire, la matrice de toute sa réflexion, qu'il a traduit, lui-même a une revue de poésie à travers laquelle il essaye de promouvoir un peu des textes méconnus. Et donc il est arrivé en proposant initialement Mrs. Reynolds et How to Write, qui n'est pas encore traduit.
Alors ce texte-là, Mrs. Reynolds, qui est donc un roman, hein, qui voilà. Donc a finalement été traduit, hein, qui est un peu trop ambitieux donc au début, mais qui finalement vient d'être traduit. C'est un roman assez épais. Elle l'écrit dans les années 40, c'est-à-dire après l'autobiographie d'Alice Bettoclas, c'est-à-dire durant ce qu'on appelle vraiment les années, je sais pas, hyper autobiographiques, je sais pas trop comment les appeler, hein, celles d'autobiographie de tout le monde, celles des guerres que j'ai vues, celles de Paris-France, hein, dont vous préfacez, Chloé Thomas, la toute fraîche parution. Donc Mrs. Reynolds renoue avec la narration, alors poursuit ce travail autobiographique et qui va saisir par les conversations, par la vie domestique, botanique même parfois, culinaire, météorologique, astrologique, beaucoup, le quotidien de Mrs. Reynolds. Alors Mrs. Reynolds et Mr. Reynolds, hein, qui apparaît rapidement, donc on comprend assez rapidement qu'il s'agit de Alice et Gertrude dans un petit village. Le texte est commencé, alors je ne sais pas si c'est juste avant l'occupation ou juste après, en tout cas dans cette zone-là. Oui. Je crois qu'elle a commencé à l'écrire en 41.
Oui, je crois que c'est
41.
Ça. Oui.
Et le roman va petit à petit laisser entrer, comme par, un peu comme par effraction, deux personnages fictifs qui sont Angela Harper et Joseph Lane, comprendre Hitler et Staline, hein, que le texte, emporté j'imagine par le contexte de la guerre, ne va plus lâcher jusqu'au bout, quoi, jusqu'à la fin du texte. Alors, curieux destin que celui de ce roman, qui est adoré par Jacques Roubaud, hein, qui le préface, jamais traduit, longtemps refusé hein, du vivant de son auteur. Comment expliquer, Laurence Bourgeon, une telle défiance, et pourquoi fallait-il le traduire aujourd'hui ?
Alors la défiance, elle est liée au contexte de l'époque, à toute une, surtout de la part des lecteurs américains de l'époque qui associaient Gertrude Stein à, c'est ce qu'explique Jacques Roubaud dans sa préface, on lui avait reproché d'avoir un temps soi-disant dit que Hitler aurait mérité d'avoir le prix Nobel dans une interview qu'elle avait donnée au New York Times, alors que c'était évidemment une réponse ironique. Il lui a ensuite été reproché d'avoir traduit des discours de Pétain qui étaient en fait une commande du président Roosevelt à une époque où les avis n'étaient pas encore trop forgés en la matière. Donc il y avait une aura, une espèce de halo un peu d'incertitude autour de son positionnement politique, qui était d'ailleurs peut-être pas très explicite de sa part. Donc c'est tout ça, le fait qu'elle s'empare d'événements historiques en mettant en scène Hitler et Staline, qui ont sans doute contribué à une certaine méfiance et au désintérêt pour ce texte, qui a été traduit de manière posthume, enfin publié de manière posthume aux États-Unis. Et le fait de le traduire et de le faire découvrir maintenant, c'est une manière de la réhabiliter. C'est tout le propos de Jacques Roubaud dans sa préface, de déconstruire toutes les accusations qui ont été érigées contre elle. Et c'est aussi une manière de compléter la découverte de son œuvre littéraire. On a publié des œuvres courtes avec le livre de lecture. On a retraduit Le Monde des Ronds, qui est une forme de conte. Et là, c'est vraiment son dernier grand roman inédit. Un roman par lequel elle cherche à renouer avec la forme de la prose. Elle accorde une grande importance à l'irruption des événements historiques dans son écriture. On retrouve énormément d'éléments. Chloé Thomas parlait tout à l'heure des noms. Le fait qu'elle renomme Angela Harper, Joseph Lane, c'est un fil conducteur dans toute son œuvre.
Mrs. Reynolds est sans prénom, quant à elle.
Voilà. Mr. et Mrs. Reynolds sont uniquement nommés par leur patronyme. Dans la mesure où maintenant Gertrude Stein est devenue une auteure patrimoniale qui continue, alors qui certes est malheureusement peu lue, mais qui continue à être une figure tutélaire pour énormément d'écrivains comme Olivier Cadio et Céline Minard, qui s'y réfèrent en permanence, Jacques Roubaud évidemment, ça nous semble important de continuer de faire découvrir des œuvres qui sont... qui était encore jusqu'à présent inaccessible.
Alors elle, Gertrude Stein, ce qu'elle en dit hein, de ce roman-là, dans un court épilogue, ce livre s'efforce de montrer ce que n'importe qui pouvait éprouver durant ces années. Un couple parfaitement ordinaire mène une vie ordinaire, a des conversations ordinaires, et vraiment ne souffre pas personnellement de tout ce qui arrive, mais sur eux tous, plane l'ombre de deux hommes, et alors l'ombre d'un de ces deux hommes grossit, éclate, et il n'y a plus rien d'autre. Ce livre n'a rien d'historique, sinon son état d'esprit. Alors on comprend bien ce que fait Roubaud dans sa préface, qui vraiment y met du cœur pour défendre Gertrude Stein, et notamment son comportement pendant la guerre. Il se trouve, j'imagine, qu'on n'en a pas tout à fait fini avec cette période-là et Gertrude Stein. Alors même si Roubaud a raison, hein, il y a eu vraiment un moment d'excès inverse, mais pour autant, où est-ce qu'on en est exactement, Chloé Thomas, sur cette question-là, sur son comportement pendant la guerre. Je rappelle qu'elles sont parties toutes les deux, qu'elles ont quitté Paris, Alice et Gertrude, qu'elles ont quitté Paris pour s'installer dans l'Ain durant la guerre et qu'elles y ont donc vécu une vie tout à fait ordinaire, avec des conversations ordinaires et qui ne souffraient pas personnellement de tout ce qui arrive.
Oui, c'est une période où Stein a écrit donc plusieurs livres. Il y a d'abord Paris-France qu'elle commence visiblement avant de savoir que la guerre allait éclater, comme un livre sur Paris. Puis en fait, elles partent dans leur maison de vacances à Bilignan, puis elles vont finir par y passer la guerre. Et puis juste après, il y a Les guerres que j'ai vues, qui est à la fois un peu la suite de Paris-France et en même temps une réflexion très distante sur et très abstraite sur la guerre en général. Et puis au milieu, donc, Mrs. Reynolds. Et quand on lit ces textes-là, effectivement, c'est un petit peu difficile de savoir où elle se situait politiquement, ce qu'elle pensait. Il y a une concentration très forte sur le quotidien, l'ordinaire, avec vraiment un jeu de mise à distance. Et quelques années après la guerre, d'ailleurs, Alice Toklas, qui était veuve de Gertrude et qui avait besoin d'argent, a publié un livre de cuisine, puisque c'était elle qui faisait la cuisine. Et il y a toute une partie sur la cuisine dans le Bugey sous l'occupation. Donc, ce qui les intéressait, c'était qu'est-ce qu'on allait manger ce soir. Et on a une impression d'indifférence qui n'est qu'une impression, en fait. Quand on fouille un petit peu, il y a apparaît progressivement une sympathie très forte pour les jeunes gens du village qui doivent soit partir faire leur STO, soit s'engager dans le maquis, etc. Et puis, il y a ce fait qui est quand même très surprenant que, alors qu'elles étaient toutes les deux américaines, que le consul n'arrêtait pas de leur dire « vous devriez peut-être... »
Américaine et juive.
Américaine, d'origine juive, ouvertement homosexuelle. Enfin, ils avaient quand même beaucoup de raisons de s'inquiéter. Et on leur disait « vous devriez peut-être songer à rentrer aux États-Unis ». Et elles ont... ça a été une évidence pour elles de rester. Alors même qu'elles étaient donc dans l'Ain, pas très loin d'Isieux, enfin vraiment dans le champ d'action de Klaus Barbie. Et de fait, elles n'ont jamais été inquiétées. Elles avaient laissé dans la rue Christine toute leur collection de tableaux qui avait quand même une certaine valeur. Il y a une légende comme quoi à la toute fin de la guerre, la Gestapo est venue et puis la concierge est allée prévenir Picasso qui... et aller défendre les tableaux. Mais donc il y a quelque chose d'assez mystérieux justement par rapport au fait que elle n'ait pas été inquiétée plus que ça. Et elles étaient persuadées en fait d'être protégées par Bernard Fay, qui était un ami de Stein, donc un américaniste qui était professeur au Collège de France, qui a viré très très collabo. Et c'est quelque chose que lui aussi a mis en avant pendant...
On n'est pas très sûr, hein, finalement, qu'il les ait protégés.
Non, on n'est pas sûr du tout. Il n'y a pas de preuve. Alors, c'est lui a insisté là-dessus parce que parce qu'après la guerre, il fallait qu'il se défende.
Il a été déchu de tous ses droits civiques. Hein.
Oui, bah après, il a bénéficié des lois d'amnistie des années 50, comme beaucoup de gens. Et c'est vrai qu'il est resté très lié à Alice Toklas. Bon, Gertrude Stein est morte en 46, mais Alice Toklas, qui lui a survécu très longtemps, est resté très proche de Bernard Fay et s'est même converti au catholicisme. Sous son influence. Apparemment, il l'avait convaincue que comme ça, elle pourrait retrouver Gertrude dans l'au-delà. Bon, on ne sait pas si elles ont été effectivement protégées par ce Bernard Fay, qui était un collaborateur proche de Pétain. En tout cas, elles ont pu vivre une guerre finalement assez quotidienne.
Elles avaient les moyens aussi. Elles avaient les moyens, elles avaient de l'argent. Mais elles avaient beaucoup plus que les habitants, les voisins de cette région, où il y avait effectivement des maquis de résistance, où il y avait Barbie qui menait la terreur sur les enfants d'Isieux, mais aussi sur les résistants quand même. Hein. Et puis c'est ce côté, je crois, solitaire, un peu très, très enfermé sur elle-même, sur son écriture, sa collection, et un peu coupée du monde en fait. Et donc elle s'est pas rendue compte de ce qu'elle faisait quand elle traduisait des discours de Pétain pour Roosevelt, qui lui-même se rendait pas vraiment compte de la situation en France. Et elle était un peu hors du coup. Et c'est ce qui... Elle est hors des avant-gardes de l'époque. Elle est, alors que beaucoup d'Américains prennent le bateau à Marseille, d'Américains, d'Allemands, etc. D'autres n'arrivent pas à le prendre, mais enfin, Ernst, Breton, et beaucoup d'Allemands qui étaient des réfugiés... en France, prennent le bateau à Marseille.
C'est vrai qu'au moment où la guerre éclate, ça fait 40 ans qu'elle vit en France. Enfin, le fait de partir est compliqué aussi, tout simplement parce qu'elle a toute sa vie ici. Puis, elle a une position effectivement assez naïve et qui rappelle aussi quelque chose qui peut paraître un peu surprenant, mais que l'avant-garde artistique n'est pas forcément synonyme de libéralisme politique. Il suffit de penser à Pound. Mais Gertrude Stein, c'était quand même quelqu'un... Bon, elle s'intéressait pas trop à la politique, mais globalement assez conservateur dans ses idées. Bon, je crois que la polémique qui a eu lieu aux États-Unis, elle ressort aussi du fait que on a moins lu sans doute des gens comme Henri Rousseau là-bas, enfin ce grand historien qui fait notamment le syndrome de Vichy. Bon, être admiratif de Pétain en 1940 ou espérer qu'il est en train de sauver la France, c'est pas. Alors certes, on voit maintenant que c'était pas très intelligent, mais c'est pas une idiosyncrasie stanienne pour le coup. C'est quand même un avis relativement bien partagé.
C'est l'avis du peuple. Mais à quelques exceptions près, ne serait-ce que Céline, que je considère comme un grand écrivain et le pire des collabos et des antisémites, mais
c'est
pas très partagé parmi les intellectuels et les artistes. Picasso reste à Paris, mais il est quand même d'abord il donne de l'argent à la résistance, hein, il nourrit un certain nombre de ses amis, à commencer par Éluard. Donc ils savent, et puis Picasso a été anti-franquiste quand même, de manière, ses positions sont claires. Il finance le Parti communiste, il reste là pour ramasser de l'argent. Il fait le banquier d'un tout petit bout de résistance. Elle est un peu coupée du monde intellectuel.
Laurent Bourgeon, Chloé Thomas, Jacques Demarque, merci à tous les trois. C'est la fin de cette émission, ou presque, hein, puisque je vous laisse la conclure entre vous, c'est-à-dire sans moi. Alors bon après-midi à toutes. Et à tous.
La question est simple, c'est qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Gertrude Stein ?
Je me permets une question un petit peu naïve parce que je ne connais pas bien ce texte. Mr. et Mrs. Reynolds, c'est Alice et Gertrude, mais which is which ? Est-ce que...
J'aurais tendance, enfin, on est d'après nos différentes lectures dans la maison d'édition, on a tendance à penser que Mrs. Reynolds, c'est Alice et Mr. Reynolds, c'est Gertrude.
D'accord.
Après, toutes les interprétations sont encore possibles.
Mais du coup, c'est centré sur Mrs. Reynolds, de la même façon qu'elle avait fait l'autobiographie d'Alice Toklas, toujours centrée sur elle-même, mais en se servant d'Alice.
Oui, c'est un peu ça. Mr. Reynolds passe et Mrs. Reynolds est dans le questionnement permanent.
La Compagnie des Poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Benjamin Vignal pour la technique, à François Connac pour la réalisation et à Michel Vonville, ma boussole. Merci à Laurence Bourgeon, Chloé Thomas et Jacques Demarque. Vous trouverez toutes les actualités de nos invités du jour sur le site de l'émission, à réécouter, podcaster et partager sur franceculture.fr. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction. Mais tout de suite, c'est au tour de Nicolas Martin de faire méthode scientifique.